quand on voit l'adolescence, ce sont des étapes, tout ça c'est la sexualité. Comment est-ce que on différencie un enfant d'un adolescent? C'est parce que ben voilà, il va avoir le développement de tout ce qui est sexuel et ça va se répertorier sur sa voix, sur son physique. Et donc, en réalité, l'éducation à la sexualité doit même être une vraie composante du parcours éducatif d'un individu. Donc, c'est même pas une question à discuter. C'est comme quand on a décidé qu'à 6 ans, il faudrait bien que les enfants apprennent à lire et écrire et ils rentrent en CP. Normalement, l'éducation à la sexualité, l'éducation sexuelle, doit être ainsi. Et si on va plus loin, hein, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que les autres ont dit sur ça. Hein. Quand on parle toujours un peu de ça, on voit que c'est même un droit. Aujourd'hui, l'éducation à la sexualité figure parmi les droits de l'enfance. Donc là, déjà, si les États, ils ont dit que ça fait partie des droits d'un enfant, ben, on comprend effectivement que c'est nécessaire. Et puis, ben, après, tout ce que Emmanuel vient de dire, hein, c'est tout à fait normal, parce que ben, l'enfant doit connaître ce que c'est son corps, le corps de l'autre, comment il se développe, pour ne pas être surpris, parce que c'est un adulte de demain qui sera un citoyen.
Vous avez avancé beaucoup de raisons qui militent en faveur d'une éducation sexuelle, mais malgré tout ça, le sujet demeure tabou en Afrique. Qu'est-ce qui peut en être la cause ?
Peut-être que les populations ont peur de rentrer dans une dépravation sociétale. Il faut savoir que le sexe, la sexualité, c'est l'ordre de l'intime et non du public dans beaucoup de sociétés africaines. Donc, c'est peut-être cette peur d'étaler le sujet en public et d'en faire un sujet de dérive qui fait que les populations sont réticentes à l'idée d'éduquer les enfants à la sexualité. Et il ne faut pas oublier que même si en public le sexe est un peu caché dans les sociétés africaines, et les parents, des familles qui font l'introduction à la sexualité dans la famille, de manière orale. Il y a certaines familles qui le font, donc ça ce n'est pas oublié, c'est à souligner. Il y a des sociétés, par exemple en Afrique de l'Est, où la sexualité est partie intégrante de l'éducation sociale. Donc voilà, il y a des familles, en tout cas des sociétés africaines qui ne veulent pas, ou en tout cas qui ont peur que l'éducation sexuelle entre dans le système de l'enseignement et de l'éducation de l'école en général, c'est peut-être parce qu'il y a une crainte de dérive autour du sujet.
Merci Emmanuel de mentionner ces familles africaines hein, qui font de leur mieux pour donner une certaine éducation sexuelle à leurs enfants. Valdi, quelque chose à ajouter sur les raisons qui peuvent pousser ou doivent pousser les parents en général et les parents africains en particulier de donner une certaine éducation sexuelle à leurs enfants?
Je ne sais pas si c'est ici pour dire africain. Ben oui, c'est vrai que le tabou, ça existe en Afrique. Mais bon, je suis sûre que ça a aussi existé ici en Europe ou dans d'autres civilisations, d'autres peuples. Mais je vais vous surprendre, moi, en réfléchissant à cette question-là, je rends un peu responsable les religions importées. Donc moi, je pense, hein, en Afrique, là maintenant je parle de l'Afrique, les religions importées sont donc la principale cause.
Pourquoi impliquez-vous les religions importées?
Parce que selon moi, et puis bon, pas selon moi, quand on essaie de lire un peu, on essaie de voir un peu l'histoire de l'Afrique, avant la colonisation, l'Afrique avait des rites qui préparaient les jeunes, que ce soit des jeunes garçons comme les jeunes filles à la vie adulte. Et donc, ben forcément à la sexualité. Pour ne pas aller plus loin, au Congo par exemple, les jeunes filles, il y avait le Tikumbi. Et quand on essaie de voir un peu l'histoire de Tikumbi, c'était vraiment la jeune fille qui était préparée, on lui apprenait les bases de la sexualité. Et quand on voit aussi, par exemple, on voit au Rwanda, il y a le Kunyanza au Rwanda, c'est une éducation mais purement à la sexualité. Hein. Du coup, ne serait-ce que ces deux exemples-là nous montrent que la tradition africaine faisait entrer dans l'éducation d'un individu la sexualité. Mais j'ai également remarqué, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas trop qu'on dise que c'est un tabou en Afrique, parce que moi j'ai remarqué que les tabous sur le sexe ont bel et bien existé aussi en Occident, à l'époque où il y avait l'influence de la religion. Donc si on essaie de réfléchir là, quand l'Europe était sous la religion, il y avait beaucoup de tabous sur la sexualité. Depuis aujourd'hui, on considère que l'Europe est aujourd'hui libre sur ces questions-là, mais justement parce que la religion ne fait plus partie intégrante de l'éducation de base. Il y a eu une séparation entre la religion et l'État. Et du coup, voilà pourquoi on voit qu'il y a une certaine liberté. Donc pour moi, le tabou, c'est vraiment, ça peut s'expliquer par rapport à ça.
Emmanuel, voulez-vous réagir à ce que Valdi vient de dire ?
En soulevant aussi des propos de Valdi par rapport à l'apport historique, mais aussi avec l'impact des religions sur les sociétés africaines. Et d'ailleurs, c'est vrai que le tabou, ce n'est pas que dans les sociétés africaines, c'est partout le tabou par rapport à la sexualité.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Certains commentaires d'Emmanuel rejoignent les propos d'un auditeur, Mamadou Falilou Seck du Sénégal, qui pense que la sexualité est aussi devenue tabou, est tabou, parce que c'est une façon d'éviter la dépravation des mœurs. Qu'en pensez-vous, Valdi?
Au contraire, moi je pense que non. Quand on parle librement de la sexualité à des jeunes, on leur donne des bases, on leur montre ce que c'est le sexe, quels sont les dangers, quels sont les avantages, parce que c'est ça aussi dans l'éducation à la vie sexuelle. C'est pas seulement dire les dangers, mais quels sont les avantages également, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi attendre, pourquoi ne pas attendre. Et quand les enfants, ils sont préparés, quand les enfants, ils ont une éducation, ils peuvent pas s'écarter normalement, ils vont comprendre ce que c'est, et puis ils vont avoir toutes les bases. Normalement, les parents n'ont pas avoir peur de donner une éducation sexuelle à leur enfant, c'est tout à fait normal au fait.
Et qu'est-ce qui pourrait être les conséquences du manque d'éducation sexuelle?
Ce serait plutôt des dérives, le manque de confiance en soi, la peur ou la crainte de demander en fait, et d'essayer de comprendre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on sait, enfin, en tout cas quand on est ignorant sur un sujet, on a peur de l'assumer en public et de l'affirmer en public.
Est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur la santé des individus? Si oui, comment, Valdi?
Déjà, la santé. D'ailleurs, le terme qu'on évoque souvent quand on parle de ces sujets-là, on dit toujours santé sexuelle ou santé de la reproduction. On va encore plus loin en disant l'éducation à la vie affective et sexuelle. On peut prendre des exemples. Aujourd'hui, un jeune, on ne lui a pas dit quels sont les dangers, par exemple, du sexe. Quand on parle des dangers du sexe, on peut prendre un exemple parce que tout ce qui est maladie IST qu'on peut attraper, justement, parce que on est allé faire du sexe sans se protéger. Donc, une maladie, une IST peut gâcher toute une vie. Attraper, on va dire, le VIH-SIDA, par exemple, vous allez me dire, oui, il y a maintenant des médicaments et tout, mais dans certains pays comme l'Afrique, pas forcément une bonne prise en charge. Si on prend l'exemple d'une jeune fille qui rentre dans la vie d'adulte, on lui apprend pas ce que c'est, peut attraper une grossesse et puis c'est toute sa carrière, c'est toute sa vie qui est mise en... Voilà, elle arrête ses études. Et ça, ça anéantit toute une vie, ça anéantit toute une famille. Bon, après, il y a certaines maladies sexuelles qui ne se soignent pas comme le sida. Il y a certaines maladies où ça ne se soigne pas. Donc, tout ça, ce sont des dangers du manque d'éducation. Alors que si on donne les bases à un jeune ou à des jeunes, on leur apprend que c'est tout à fait normal qu'ils ressentent. Puisque, c'est ce que je dis toujours, c'est un bagage. La sexualité, c'est un bagage que quelqu'un traîne avec lui. Arrivé à un certain âge... Pour une jeune fille, elle va commencer à avoir des règles, et donc après les règles, quand elle a des règles, elle va avoir des envies sexuelles. Du coup, il va avoir un jeune homme quelque part aussi qui est passé par là, qui va chercher, et puis ils vont se retrouver, ils vont pouvoir faire l'amour. Ils sont pas protégés, ils sont pas informés, et donc ce sont des conséquences qu'on peut éviter. Mais du coup, c'est beaucoup, ça va au-delà de la santé, c'est familial, c'est sociétal. Parce que s'il y a que les jeunes filles qui attrapent des grossesses, ça veut dire qu'il y aura pas de jeunes femmes qui vont pouvoir faire des longues études. Et puis qui seront toujours en train d'élever les enfants, et puis pareil avec les garçons. Donc c'est vraiment toute une nation, on va dire, c'est vraiment une science politique normalement, les questions liées à la sexualité. Voilà pourquoi les jeunes qui ne sont pas informés peuvent avoir beaucoup de conséquences, au fait, à la base.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Où est-ce que les jeunes peuvent avoir des informations sur la sexualité? À qui revient la responsabilité de leur en parler?
La responsabilité d'en parler aux jeunes, ce serait aux parents, mais aussi au système éducatif, en fait. Toutes les structures et infrastructures qui sont mises en place pour conseiller, pour aiguiller, pour orienter les jeunes sur leur santé sexuelle, sur la sexualité, ce sont ces trois axes qui reviennent à la responsabilité de discuter du sujet avec les jeunes.
Valdi, puisqu'on voit que les parents souvent hésitent, comment ils peuvent s'y prendre pour parler de la sexualité à leurs enfants?
C'est très intéressant. J'ai moi-même réfléchi parce que je suis parent et j'ai fait des études de sexologue, je suis en formation. Quand je me suis lancée dans ce domaine-là, c'est parce que j'ai réfléchi, j'ai effectivement pensé à mes enfants, à mes filles. J'avais des tabous, comme on en a parlé, dû à notre société, dû à la religion. Et je me dis aussi que comment est-ce que je vais pouvoir, avec ces tabous-là, comment est-ce que moi je vais pouvoir donner une éducation sexuelle à mes enfants? Parce que le contexte change, les époques changent. Donc, c'est ce qui m'a permis d'aller m'informer. Mes enfants ont 14 et 12 ans. Mais j'ai aussi remarqué que mes enfants ne me disent pas tout. Donc, il peut y avoir une maman ou un parent qui peut avoir une certaine liberté de parler de ces questions-là. Mais au niveau parfois des enfants, il y a toujours une gêne. Donc, c'est comme disait Emmanuel, il faudrait à ce moment-là qu'il y ait d'autres axes, donc d'autres moyens qu'il faille développer pour pouvoir effectivement donner une information, que les jeunes soient libres d'avoir des informations liées à ces questions-là. Et moi, je me rappelle une certaine époque, quand on était au Congo, par exemple, donc, au sein des écoles, il y avait PRESIEC, prévention du sida dans les écoles du Congo. Donc, c'était un programme qui était intéressant. On formait des pères éducateurs qui, eux, par la suite, apportaient l'information aux jeunes. Et ça, ça passe mieux. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes, on leur montre ce que c'est. Effectivement, quand eux, ils sont convaincus de ce que vous leur dites, ils ont la facilité eux-mêmes d'en informer les autres jeunes. Mais ces jeunes qu'on forme, il faut vraiment bien les former pour qu'ils puissent avoir des bonnes informations à transmettre aux autres jeunes. Et ça, ça passe. Donc, c'est vrai, les parents, ils n'ont pas forcément le nécessaire pour enseigner leur enfant. Bon, le tabou existe, la honte, la gêne même au niveau des adolescents qui ne peuvent pas vraiment parler de ces sujets-là avec leurs parents. Donc, il faudrait à ce moment-là voir d'autres axes, comment faire de sorte que ces jeunes puissent accéder à des bonnes informations sur ces questions-là.
Mais les parents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir la connaissance ou tout l'arsenal dont ils ont besoin?
Moi, par exemple, j'avais réfléchi à ça. À une certaine époque, pourquoi ne pas effectivement créer des structures ou même des entreprises, hein, puisqu'on a dit que la sexualité, ça fait partie de lui-même. Mais malheureusement, il n'y a pas d'entreprise comme ça qui existe où des personnes sont en appui. Pour moi, je me dis que effectivement, c'est assez complexe de donner cette éducation à des individus que vous ne connaissez pas. Mais les parents peuvent, des structures peuvent exister où ce sont des entreprises, des gens que les parents, on va dire, contactent. Et puis ces personnes-là viennent, écoutent les demandes des parents, les aident déjà à aborder certains sujets et par la suite peuvent aller plus en profondeur avec les enfants sur ces questions-là. Après, les parents peuvent se monnayer. Et là, ça fait référence à des... Quand on essaie de regarder, comme on a parlé des rites en Afrique à l'époque, ce n'étaient pas des parents forcément qui enseignaient. Hein. C'était des tantes, c'était vraiment des personnes qui n'avaient pas de lien vraiment direct avec les enfants. Ça permettait effectivement à ce que les enfants soient à l'aise et qu'il n'y ait plus le côté jugement où on se regarde dans les yeux. Donc, tu as déjà fait, tu n'as pas encore fait. Ou voilà, il peut y avoir par exemple ce genre de structures qui peuvent être mises en place pour pouvoir favoriser ça. Après, il y a des associations aussi qui existent.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
Beaucoup de parents se plaignent que leurs enfants ne leur disent rien et même quand les enfants sont victimes d'attouchements ou même d'abus sexuels, ils ne disent rien à leurs parents. Est-ce que le manque ou bien l'absence de l'éducation sexuelle peut aussi être une cause de cette situation?
Emmanuel.
Certainement, parce que s'il y a un manque d'éducation sexuelle, par exemple, comment un enfant saurait que l'attouchement qu'il ou elle est en train de vivre est grave? Comment l'enfant saurait que ce n'est pas le moment pour ce genre de choses? Si les enfants cachent leur sexualité à leurs parents, ou en tout cas leur connaissance de la sexualité à leurs parents, c'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance de leur en parler, ils n'ont pas la confiance de leur en parler. Il n'y a pas de rapport de confiance qui est instauré pour que les enfants puissent parler ouvertement aux enfants. Et comme dans les familles, dans certaines familles en tout cas, c'est tabou ce genre de sujet, bien sûr que les enfants n'oseront pas directement et ouvertement aller voir les parents et leur parler de problèmes qu'ils ont ou qu'elles ont qui sont liés à la sexualité, ni de problèmes graves, ni de problèmes juste du quotidien, comme par exemple avoir ses règles, comme par exemple pour les garçons, par exemple, les premières fois où leur appareil génital s'endurcit, engourdit, voilà, ce genre de choses, ils ne pourront pas aller voir les parents et leur en parler ouvertement tant qu'il n'y a pas de confiance et que le sujet reste tabou. L'éducation sexuelle aussi favorise la parole. Donc, je pense que si déjà les parents assument leur sexualité et ont des connaissances sur le sujet, et même s'ils n'en ont pas, ils peuvent se rapprocher d'organisations à but non lucratif ou d'entreprises, comme le disait Valdi. Il faut vraiment que les parents aient connaissance, puissent ne pas avoir peur de parler du sujet, et pour qu'ils laissent les enfants venir vers eux et que les enfants, avec les connaissances qu'ils ont dans le système éducatif, puissent parler à leurs parents en disant « voilà, j'ai tel problème, il y a ça qui m'arrive, voici le sujet que j'aimerais apporter, voilà ».
Valdi, un complément d'idée?
Tout à l'heure, on a parlé des droits de l'enfant. Donc, je vais peut-être intervenir en parlant, par exemple, d'un article qui est donc la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a un article, donc l'article 19, où on parle du fait que les États, ils ont obligation de fournir aux enfants les mesures éducatives pour les protéger, notamment contre les abus sexuels. Donc, c'est un article qui le dit. Donc, du coup, on comprend bien que c'est tout à fait normal, comme l'a dit Emmanuel, quand l'enfant est à toutes les bases, l'enfant saura que là, c'est des attouchements, là, c'est mon intimité. Moi, je pense qu'on confond beaucoup. On pense que quand on parle de l'éducation de la sexualité, c'est peut-être montrer à l'enfant que, entre parenthèses, les termes qu'on dit coucher avec les garçons, coucher avec les filles. Non, c'est pas forcément ça. Dans l'éducation à la sexualité, ça va beaucoup plus loin, comme on a dit. On va vous apprendre, on apprend aux jeunes en fonction de leur âge, parce que ça doit commencer à un certain âge. En fonction de cet âge-là, on va apprendre aux enfants, ben déjà, c'est encore qu'est-ce que c'est son intimité et où est-ce qu'une personne ne peut pas y aller. Et quand une personne franchit cette barre-là, ça, c'est dangereux, il faut le dire. Parce que c'est pas normal qu'une personne extérieure vienne toucher cette telle partie du corps, parce que ça fait partie de son intimité. Et là, ça devient abus. Mais si l'enfant n'a pas cette éducation-là, n'a pas été informé, et puis il y a la partie honte aussi de pouvoir dire. Mais quand les enfants ils ont une certaine base, ils ont une certaine information, mais normalement, ça éviterait effectivement ce genre de problème hein, dans n'importe quelle société.
Quel est le conseil que vous donnez à tous les parents qui sont encore réticents à l'idée de parler de sexualité à leurs enfants et même aux autorités publiques, hein, puisque c'est aussi une question de santé publique?
La sexualité fait partie de la vie. Si des sociétés se battent pour les introduire dans le système éducatif et dans l'éducation des enfants, donc des futurs jeunes adultes, en tout cas de futurs adultes, c'est parce que c'est primordial, c'est parce que ça participe à la constitution et au développement de chaque individu. Donc il ne faut pas avoir peur et assumer votre sexualité, assumer d'en parler. Éduquons-nous, il faut s'éduquer et il faut pouvoir éduquer nos enfants, les futurs citoyens, pour qu'on essaie de construire un monde où chacun a une confiance en soi et une connaissance sur différents sujets, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, la vie sexuelle et affective.
Merci Emmanuel Valdi.
Alors, je vais pouvoir imager ma réponse suite à une réflexion d'une amie. Justement, on parlait des parents, comment aborder ces questions. On a pris l'exemple de peut-être deux enfants. Un enfant qui regarde la pornographie et un enfant qui va regarder les jeux. Les jeux, qui jouent aux jeux où on tue, où il y a du sang. On est beaucoup plus tolérant pour ces jeux-là. Ça ne dérange pas, on va dire ça. Quand je dis pornographie, je vais trop loin, il faut le dire. Mais déjà, l'humain, quand il arrive, quand il va voir son enfant regarder la pornographie, il ne va pas avoir la même réaction que quand il va voir son enfant en train de jouer à des jeux où on traque des gens, où il y a beaucoup de sang, où on tue les gens, alors que ça devait être le contraire. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un propre, parce que ce n'est pas normal de tuer quelqu'un. Ce n'est pas normal. Alors que la sexualité, en réalité, comme on l'a dit, hein, tout au long de l'émission, ça fait partie de l'éducation. Donc, on aurait pu être beaucoup plus laxiste avec ce qu'on peut considérer comme pornographique et prendre son enfant, lui dire ben, « il ne faut pas peut-être regarder l'information là-dessus, ben, tu viens, je vais pouvoir te t'enseigner, te dire ou encore je vais mettre à ta disposition des éléments nécessaires pour t'apprendre à connaître ce que c'est la sexualité ». Donc juste par ces exemples-là, on comprend vraiment comment est-ce que ce sujet est vraiment échappé en famille. Donc il faut qu'on comprenne cela, que ça fait tellement partie de la vie d'une personne que toute son évolution, l'enfant a des droits et ben, ce sont des droits de l'enfant d'avoir des informations. Et donc, comme a dit Emmanuel, il ne faut pas avoir peur. Hein. Si on a des questions, il y a des associations, il y a beaucoup d'associations qui parlent de ces sujets-là et c'est peut-être intéressant de les approcher et surtout d'être informé, de pouvoir même s'informer, de se former pour pouvoir donner des bases à ses enfants.
Est-ce la raison pour laquelle vous avez créé le groupe Parlons-en sans tabou?
Mais justement, déjà, pourquoi avoir créé ce groupe? Parce que les questions de la vie sexuelle, la sexualité, ça reste un tabou, même dans les couples, surtout même dans les couples. Donc déjà, s'il faut que dans les couples ou des adultes, ça reste un tabou, comme à plus forte raison auprès des jeunes. Donc moi, j'aimerais bien qu'on parle, dans mon groupe, l'idée c'est de pouvoir parler de ces questions avec une certaine liberté, mais sans vulgarité. C'est de pouvoir aborder la sexualité autrement, pouvoir en parler. Et dans la sexualité, là, tout à l'heure, quand on a essayé de parler, on a parlé de l'information, on a parlé de la santé, mais de la sexualité, il y a aussi le côté plaisir que souvent, on n'en parle pas. Il y a aussi du plaisir dans la sexualité. Donc il faut savoir en parler, sans tabou, sans honte, parce que ça fait partie de l'humain. Dans mon groupe, j'essaie de donner un peu les bases, on va dire, j'essaie de prendre de bonnes informations, parler de la vraie sexualité, donner les bonnes informations pour qu'on ne puisse pas s'égarer hein, sur des illusions ou autres. Pour moi, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir aiguiller tout le monde pour pouvoir avoir une bonne information sur la sexualité.
Merci Emmanuel, merci Valdi.
Merci beaucoup.
Merci en tout cas, Malika.
Merci pour l'invitation.
C'était notre entretien avec Valdi Kaya, psychosexologue et fondatrice du groupe Parlons-en sans tabou, et Emmanuela Tissot. Elle travaille dans le domaine de la culture et des arts. Maintenant, c'est l'heure du carnet de santé avec Nino Rondo. Cette semaine, dans Carnet de santé, comment améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap? On en parle.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Au moins 80% des personnes handicapées en âge de travailler sont au chômage dans les pays sous-développés. Dans la plupart des pays développés, les personnes handicapées sont deux fois plus susceptibles d'être au chômage que celles qui n'ont pas de handicap, selon les Nations Unies. Les données de l'ONU montrent qu'il y a plus de 80 millions de personnes handicapées en Afrique, y compris celles qui souffrent de problèmes de santé mentale, de malformations congénitales et d'autres déficiences physiques. Les observateurs affirment que la stigmatisation, le manque d'éducation formelle ou le manque d'accès à des technologies d'assistance telles que des fauteuils roulants sont certaines raisons qui empêchent de nombreuses personnes handicapées d'entrer sur le marché du travail. Le mois national de sensibilisation à l'emploi des personnes en situation de handicap est célébré aux États-Unis chaque année en octobre pour reconnaître leur contribution et leur innovation à la main-d'œuvre du pays. Arzuma Compaoré de la VOA a rencontré certains d'entre eux.
My name is Ricardo Bill.
Je m'appelle Ricardo Bill. J'ai 28 ans. On m'a diagnostiqué d'un handicap. Il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire, comme lire et faire des maths, rester éveillé à l'école. Je n'aimais tout simplement pas aller à l'école.
Lorsque Ricardo a obtenu son diplôme au lycée River Terrace à Washington en 2016, ses professeurs ont tenu à rencontrer sa mère. Ils voulaient que Ricardo s'inscrive dans les programmes de l'administration des handicaps liés au développement, DDA, et ceux de l'administration des services de réadaptation, RSA.
Miss Botman était l'un de ses enseignants. Elle a rempli tous les papiers pour qu'il obtienne un gestionnaire de cas à la DDA.
Le DDA aide les personnes présentant une déficience intellectuelle à recevoir les services et le soutien dont ils ont besoin pour mener une vie autonome et valorisée au sein de la communauté. Le RSA, lui, se concentre sur l'emploi. Ils sont tous deux placés sous l'égide du département chargé des services liés au handicap à Washington, D.C.
Nous avons des personnes affectées à toutes ces écoles pour identifier les étudiants handicapés qui pourraient bénéficier de nos services pour fournir ce que nous appelons des services de transmission pré-emploi, qui sont un certain nombre de services différents pour aider les étudiants à se préparer à la réussite post-secondaire, pour les aider à se préparer soit à l'éducation et à une formation post-secondaire, soit à l'emploi après l'école secondaire.
Le DDS a aidé Ricardo à trouver le chemin de Galaxy Healthcare Solutions, qui aide les étudiants bénéficiaires du programme à rédiger leur CV, à rechercher un emploi et à passer des entretiens d'embauche. L'aide qu'il a reçue a changé sa vie. Il a maintenant deux emplois et ne pourrait être plus heureux.
La chose dont je suis vraiment fier, c'est de gagner mon propre argent. Je n'ai plus besoin de demander l'aide de qui que ce soit. Avant de commencer à travailler, je n'avais rien d'autre à faire. Je devais rester à la maison.
Ce programme fonctionne pour tout le monde, Ricardo, sa mère et ses employeurs au Moms Organic Market.
Ricardo fait un peu de tout. Il aide les clients, il fait beaucoup d'emballage de produits d'épicerie pour les clients, il fait beaucoup de nettoyage. C'est vraiment la personne en charge du ménage ici. Il fait ça très bien parce qu'il est minutieux et travailleur.
Quand je vois Ricardo travailler, c'est un sentiment agréable pour moi parce que j'ai tout fait pour qu'il puisse obtenir un emploi. C'est bien pour lui et pour moi.
Avec mes deux emplois, j'ai le sentiment d'avoir réussi et je veux que le monde entier voit que je vais bien. Je suis heureux. Mon objectif est d'avoir mon propre restaurant. Je veux que tout cela devienne viral.
Voilà donc un programme qui donne aux personnes handicapées la possibilité de rêver.
Liman Ousmane est président de l'Initiative pour les besoins sociaux des personnes handicapées. Il nous en dit plus sur les défis et opportunités concernant l'emploi des personnes souffrant de handicap.
Les principaux problèmes des personnes souffrant d'un handicap au Nigeria sont l'accessibilité aux locaux. Les personnes en fauteuil roulant ont du mal à se déplacer dans les centres de santé. De même, les personnes malvoyantes peuvent avoir des difficultés à se déplacer si elles ne sont pas accompagnées d'un assistant visuel. Il en est de même pour les malentendants. Elles peuvent également avoir des difficultés à communiquer à moins d'être accompagnées d'un interprète. Et puis, l'attitude y contribue aussi.
C'est aussi ici que s'achève cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir, qui était consacrée à l'importance de l'éducation à la santé sexuelle chez les jeunes. Ce magazine Santé a été présenté par Nanit Talani et réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.